Session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe, le 22 août à Saint-Jodard.
J'espère que vous êtes bien reposés, que les troupes sont fraîches. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet maintenant. Hier au soir, expliquait rien. Elle n'en comprend plus rien du tout. Donc, haine, c'est ce qui est. Ce qui tombe. L'haine, ce qui est, tombe en premier lieu dans l'intelligence. Voilà la traduction. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est ce qui est. Alors, ce qui tombe, kadit. Évidemment, ça vient de l'arabe, vous savez, Avicenne. Avicenne, c'était en latin et en arabe. Avicenne était un génie. De son temps, Avicenne est considéré absolument comme un très grand génie. Et je crois qu'il est génial. Et Avicenne a donné le ton de toute la métaphysique d'Albert le Grand et du premier saint Thomas. Et puis saint Thomas a voulu revenir à Aristote. Alors nous avons le contrat Gentilès. Et le contrat Gentilès, c'est saint Thomas qui a absorbé Aristote. Et en dernier lieu, il a donné la somme. Parce que dans saint Thomas, il y a quand même un devenir. Il ne faut pas croire du tout que saint Thomas, du premier coup, nous donne la somme. Pas du tout. Saint Thomas reconnaît qu'il y a un progrès dans l'intelligence. Et nous sommes thomistes dans la mesure où nous reconnaissons qu'il y a un progrès dans la connaissance. C'est pour ça qu'on ne répète pas saint Thomas. Mais on s'en sert. On essaie de comprendre ce qu'il est et ce qu'il a dit. Donc, primo, cadit, cadit, tombé. Vous savez, vous l'ancien, quand vous allez en Samarie, au puits de Jacob, on vous donne un petit caillou. Il faut le laisser tomber dans le puits. Il vous dit, le puits est profond. Parce que vous avez le moment où vous l'avez lâché et puis vous entendez qu'il tombe. Le puits est profond. Kadit, ce qui tombe. Qu'est-ce qui tombe dans l'intelligence? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'intelligence reçoit? Vous pouvez vous placer de l'intérieur. Or, quand il s'agit de l'intelligence, il s'agit toujours de se placer de l'intérieur. Qu'est-ce que l'intelligence reçoit en premier lieu? L'intelligence reçoit en premier lieu ce qui est. Voilà ce qui marque l'intelligence. C'est pas la couleur. C'est pas les apparences. Ce qui marque en premier lieu l'intelligence, c'est ainsi ce qui est. Donc, le jugement d'existence. Ceci est. Voilà l'intelligence dans toute sa pureté. L'intelligence est faite pour atteindre ce qui est. Elle n'est pas faite pour atteindre en premier lieu l'idée Descartes. Pour des quantités de philosophes, l'intelligence est faite pour les idées. Ah, vous faites de la philosophie. Oh, alors, vous serez dans les idées. Mais non, la philosophie est dans la réalité. Ce qui est, c'est la seule chose qui intéresse le philosophe. Le philosophe ne s'intéresse pas en premier lieu au possible. Le possible, c'est déjà une construction d'intelligence. C'est pas ce qui est. Et parmi les réalités qui existent, l'homme et la réalité la plus parfaite. Donc, toute la philosophie, ce sera entre le ens et homo. Je ne regarde pas seulement l'homme, je ne regarde pas seulement ens. Philosophie première, éthique. L'homme dans sa finalité. Et ens dans sa structure. Je crois, j'en suis sûr, que seule une philosophie de ce qui est permet une éthique finale. qu'est-ce que c'est que l'éthique. C'est pour ça que philosophie première et éthique se tiennent tout le temps. Tous les progrès que vous faites en philosophie première ont leur répercussion en éthique. Et tous les progrès que vous faites en éthique ont leur répercussion en philosophie première. Vous allez tout de suite saisir l'éthique. Regarde en premier lieu la finalité, c'est-à-dire le bien. Le bien de l'homme. La finalité, c'est découvrir le bien absolu. Le bien absolu pour l'homme. Donc ce qui finalise, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller, c'est ça la fin. Donc la découverte du bien, et ici la découverte de l'être. Vous voyez que toute la tension philosophique, c'est entre ce qui est et le bien. Moi, je ne peux pas aller plus loin. Je vous dis ça, c'est un rappel. Un rappel pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça. C'est un sujet à réflexion. Primo catitin teletus ens, philosophie première. Et la philosophie regarde l'homme, l'homme dans sa finalité. C'est ça qu'on regarde le philosophe. Pas l'homme possible, mais l'homme finalisé. C'est-à-dire l'homme parfaitement en acte. Je ne suis parfaitement en acte que quand je suis finalisé. Tant que je ne suis pas finalisé, je suis une poule bouillée. Je ne sais pas où je vais. Il faut être finalisé. Il y a tellement peu de personnes qui sont finalisées. Tellement peu. C'est pour ça qu'ils n'ont aucune force. C'est la finalité. Être finalisé qui nous donne une orientation de vie, une intention de vie, et qui fait qu'on sait où l'on va. Tandis que si on n'est pas finalisé, on est girouette. Aujourd'hui ceci, demain cela. Aujourd'hui ceci, demain cela. Et c'est tout le temps comme ça. Vous subissez toutes les influences parce que vous n'avez pas réfléchi sur ce que c'est que l'homme et sa finalité. Vous voyez, ça fait comprendre cette parole très forte d'Aristote. On fait de la philosophie première pour connaître ce qu'est l'intelligence, l'esprit et Dieu. C'est très beau ça. Et je crois que c'est très juste. C'est pour connaître ce que c'est que mon intelligence. J'ai besoin de faire de la philosophie première pour connaître ce que c'est que mon intelligence, la capacité de mon intelligence. Si mon intelligence est capable d'atteindre ce qui est, elle est capable de découvrir qu'il est nécessaire de poser un être premier que toutes les traditions religieuses appellent Dieu. La découverte de l'existence d'un être premier, donc de Dieu, ne peut se faire que lorsque l'intelligence est actuée par ce qui est. Autrement, c'est impossible. Oui, c'est pour ça que c'est important de comprendre cela. Eh bien, cette philosophie première est une sagesse. Sagesse philosophique. Elle est sagesse parce qu'elle atteint l'être premier, qui est le bien suprême, qui est la source de tout ce qui est, la cause première, créatrice. Alors, la foi, quand elle se sert de cette sagesse pour découvrir parfaitement la parole de Dieu, me donnera une théologie scientifique. C'est ça qui est important à saisir. La théologie scientifique présuppose que le croyant se sert d'une philosophie première. C'est pour ça que c'est si difficile de comprendre saint Thomas. Parce que ça présuppose le point de vue de la foi. Et ça présuppose une philosophie première une sagesse. Et cette sagesse implique une éthique. Tout le temps. Donc une vision sur l'homme. Mais ce n'est pas la vision sur l'homme qui est ultime. C'est la vision sur l'homme pour le dépassement de l'homme dans la connaissance de ce qui est. Et en définitive, de poser l'existence d'un être premier, qui est notre Créateur. Ça, c'est les présupposés. Hein. C'est très difficile, hein. Je suis d'accord avec vous, c'est pas commun du tout. Alors, ceux qui ne comprennent pas, ils présupposent, ils font confiance. Je défie quelqu'un de comprendre saint Thomas s'il ne connaît pas la philosophie première. Ça, c'est sûr. La théologie scientifique de saint Thomas présuppose ça. C'est pour ça que normalement, avant de lire saint Thomas, il faut faire de la philosophie. On peut lire sans avoir fait de philosophie. Parce que c'est le croyant. Et donc, on fait confiance à saint Thomas. Et petit à petit, en lisant saint Thomas, on absorbe une théologie scientifique qui implique une philosophie première. Et donc, en lisant saint Thomas, on devient plus intelligent. Et notre intelligence s'aiguise. Et elle arrive petit à petit à atteindre ce point de vue de la philosophie première. On peut, pédagogiquement. Mais il y a un danger. C'est alors de confondre le point de vue de la foi et le point de vue de la philosophie. L'erreur de la scolastique avec Suarez, de la scolastique décadente, donc de ce qu'on appelle ordinairement le thomisme. L'erreur du thomisme décadent à partir de Suarez, c'est d'avoir voulu retrouver une philosophie à partir de la somme de saint Thomas. Je vais m'expliquer en deux mots. C'est le second point. Hein, qui est important à noter. Je vous ai dit, la théologie est quelque chose de complexe. Et ça a son unité sui generis. Et c'est complexe. C'est pas simple. La philosophie première est simple. C'est sûr. L'être, ce qui est, la réalité, c'est simple. Jugement d'existence. On y vient tout le temps, quoi. Ce sont des carottes. Quand vous épluchez les légumes, faites un jugement d'existence. C'est sûr. Vous respectez les légumes. Ce jugement d'existence, c'est une réalité autre que vous, que vous respectez. La philosophie est simple, la théologie est complexe. Quand on enseigne la philosophie et la théologie, on voit tout de suite la complexité de la théologie. Et je crois que l'erreur, c'est que les théologiens d'aujourd'hui ne sont pas assez philosophes et ne comprennent pas assez cette complexité. Alors, progressivement, ils font de la théologie comme s'ils faisaient de la philosophie. Je crois que c'est la grande erreur, ça. Quand on regarde attentivement ce qui se passe, on voit ça. Donc derrière, il y a un fidéisme. On oublie que l'intelligence a ses exigences propres. On l'oublie complètement. Sous l'influence de Hegel, sous l'influence donc du luthérien, de Luther, c'est très très curieux, ça. Monsieur Bourgeois, qui est un grand hegélien, a fait ici une conférence sur Hegel en commençant de cette manière. Hegel a dit « Je suis luthérien ». Comme il est philosophe, ce qu'il dit correspond à la réalité profonde qu'il porte en lui. Et à partir partir de cette affirmation, il nous a montré toute l'intériorité hegelienne, toute l'immanence hegelienne. C'était passionnant. Je suis luthérien. Mais quand on dit je suis luthérien, on ne peut pas dire en même temps je suis catholique. Non, puisqu'il s'est séparé. Alors, il faudrait reprendre. Si je dis « je suis catholique », dans le « je suis catholique » est impliquée la distinction réelle de l'intelligence et de la foi. Si je dis « je suis catholique », j'accepte que l'intelligence par elle-même peut atteindre l'existence de Dieu. C'est impliqué dans toute la grande tradition catholique. Tous les pères de l'Église, jusque Vatican I. Alors après, il s'agit d'être intelligent. Si on dit je suis catholique, il faut être intelligent. Ça, c'est impliqué dedans. Être intelligent autant qu'on le peut. C'est évident, autant qu'on le peut. Avec nos petites expériences. Mais on doit maintenir la distinction des deux. Et on considère que le péché n'a pas tué notre intelligence. On considère que le péché, les conséquences du péché originel, n'ont touché en rien la capacité de l'intelligence. Ma capacité de l'intelligence est la même maintenant qu'avant la faute originelle. Il faut aller jusque-là. Tandis que pour Luther, les conséquences du péché originel touchent l'intelligence. Et l'intelligence n'est plus capable d'atteindre la vérité dans ce cas-là de fondamental. Vous voyez, confusion entre ce qui est et l'exercice de ce qui est. Il est évident que les conséquences du péché me mettent dans une paresse radicale. On est tous des paresseux, point de vue intellectuel. Tous, conséquences du péché. Et parce que vous êtes paresseux, que nous sommes paresseux, notre intelligence s'endort. Et notre intelligence s'endormant, on dit, elle est incapable. C'est comme celui qui n'a jamais fait de marche. Ben, c'est impossible de monter sur le Mont Blanc. C'est impossible. Plus personne dira. Parce que vous n'avez pas fait d'exercice. Parce que vous n'avez pas développé votre intelligence, vous dites qu'elle est incapable. Mais non. Un païen comme Aristote a découvert profondément qu'il existait nécessairement un être premier. Pas seulement Aristote, mais Platon aussi. Et toute la philosophie grecque. Alors d'un seul trait, on y sort. Il y a un témoignage historique que ce que dit l'Église catholique est vrai. Tandis que Luther, lui, en face d'une scolastique décadente, c'est pas entièrement sa faute, en face d'une scolastique décadente, et donc d'une philosophie thomiste décadente, a dit non, l'intelligence est incapable d'atteindre l'existence de Dieu. C'est pour cela qu'en face de Hegel, qui est le grand théologien luthérien et le grand philosophe, on est obligé, si on veut rester catholique, d'aller jusque-là, rester catholique, vous voyez dans quel sens je veux le dire, parfaitement conscient, parfaitement intelligent, on doit aller jusque-là, redécouvrir comment l'intelligence peut par elle-même, remonter jusqu'à l'existence de Dieu. Et donc, essayer de comprendre la différence entre l'exercice de mon intelligence et le contenu de ma pensée. C'est pas si commode, hein, parce que c'est là l'erreur de la dialectique. Dans la dialectique, on ne peut plus faire la distinction entre le contenu de ma pensée et l'exercice de ma pensée. distinction très fondamentale, ça. Alors, je regarde maintenant la décadence de la philosophie thomiste. Comment ça s'est fait? C'est parce qu'on a voulu redécouvrir à partir de l'ordre théologique. Puisque la théologie est une sagesse. Toute sagesse a son ordre propre. On a voulu, à partir de cette sagesse théologique, découvrir l'ordre de la pensée philosophique. Et Suarez fait ça avec une très bonne intention. Il veut sauver le thomisme en le mettant dans le lac. Complètement. Parce que c'est une laïcisation. Vous voyez la première laïcisation. C'est une laïcisation de la somme théologique de saint Thomas qui part de la foi. C'est une sagesse qui présuppose la foi, qui s'appuie sur la foi. Je ne peux pas découvrir un ordre philosophique à partir d'une œuvre théologique. Parce que dans cette œuvre théologique, foi et intelligence sont liés. Comment découvrir dans le mulet, je prends exprès l'exemple, dans le mulet, l'origine du mulet? Impossible. Le mulet a son chiffre biologique. Vous ne pouvez pas découvrir l'origine des deux. Vous ne pouvez pas, à partir de cet ordre théologique de la somme, qui a son caractère propre, son unité propre, redécouvrir l'ordre de la pensée philosophique. Impossible. Parce que vous regarderez les conclusions. Il faut remonter à la source. Et pour remonter à la source de la philosophie, il faut revenir à l'expérience. Et non pas partir des conclusions. Il faut revenir à l'expérience. L'expérience humaine. Je suis croyant, et c'est pas parce que je suis croyant que je n'ai plus d'expérience humaine. La foi ne tue pas l'intelligence. La foi éveille l'intelligence. Et l'exige d'aller plus loin. Et veut une intelligence saine. Une intelligence réaliste qui pose un jugement d'existence. Ceci est. Alors, l'expérience du travail. C'est pas parce que je suis croyant que mon travail est chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un travail chrétien? C'est un travail. Il est chrétien parce que je l'oriente vers l'Eucharistie, le pain et le vin, qui est le fruit du travail, symboliquement, le fruit du travail. Alors le travail est chrétien quand il est orienté vers le mystère de l'Eucharistie. C'est dans saint Jean, ça. Hein. Travailler, non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture que vous donne le Fils de l'homme. C'est Jésus qui dit ça, chapitre 6, dans saint Jean. Donc, il y a l'expérience du travail. Il faut donc, à partir de l'expérience du travail, faire la philosophie du travail. L'homme travailleur. Il y a l'expérience de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié n'est pas la charité, d'autre chose. Voyez, je reprends toute la philosophie à sa source, à partir de l'expérience. Et j'essaie de découvrir l'ordre de la pensée philosophique, non pas à partir de la théologie, mais à partir de l'expérience. C'est à partir de l'expérience que je redécouvre. Qui est complètement perdu. canonisée que la confusion sera canonisée. Non. Il a eu de très bonnes intentions. Sauver saint Thomas. Mais il n'a pas été assez loin. Il n'a pas compris que, de fait, on ne peut pas redécouvrir une pensée philosophique à partir de conclusions théologiques. Vous n'avez qu'à regarder, si vous avez le temps, dans Suarez, les méditations métaphysiques de Suarez. Quel est le point de départ de la métaphysique dans Suarez? L'idée d'être. C'est comme ça que ça commence. L'idée d'être. L'idée d'être, pour Suarez, l'idée d'être. Donc l'ordre de la pensée philosophique, c'est l'idée d'être. L'idée d'être. Et il le dit tout de suite, fini et infini. Voilà. Voilà le point de départ de cet ordre de la pensée métaphysique. L'idée d'être. Mais est-ce que vous avez l'idée d'être infini? Moi, je ne l'ai pas. Si j'avais l'idée d'être infini, j'aurais l'idée de Dieu. Vous voyez, cette chose terrible. C'est comme si on avait l'idée de Dieu, mais vous n'avez pas d'idée de Dieu. Vous affirmez que Dieu existe, mais vous n'avez pas d'idée de Dieu. Sartre a raison, il faut le reconnaître, quand il dit que si on avait l'idée de Dieu, Dieu n'existerait pas. Vous voyez dans quel sens il dit? Parce que ce ne serait pas Dieu. L'idée de Dieu n'est pas Dieu. Dieu est au-dessus de toutes mes idées. Je ne peux faire qu'une seule chose, c'est affirmer qu'il existe. J'ai une certaine connaissance du nom de Dieu. Du nom de Dieu, mais pas de l'idée de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Le nom de Dieu, oui, c'est celui qui est créateur de tout. C'est celui qui est infini. Mais je ne connais pas, je n'ai pas d'idée de l'infini. Or, pour Suarez, tout commence par l'idée d'être fini et infini. Alors, je comprends très bien comment un successeur de Suarez, Wolf, divise la métaphysique, métaphysique du fini et métaphysique de l'infini. C'est directement le disciple de Suarez. Et c'est à partir de cette métaphysique de Wolf que Kant s'oppose violemment. Vous voyez, là c'est très intéressant de voir ça. D'une certaine façon, Kant est le bulldozer, puisque la critique, hein, c'est un bulldozer, de Suarez. Il dit non, et il a raison. Et tout le monde a identifié la pensée de saint Thomas et celle de Suarez. Et quand on enseigne le thomisme, on enseigne Suarez. Voilà philosophie. Alors qu'il faut tout reprendre à partir de l'expérience pour redécouvrir alors un ordre qui soit proprement un ordre philosophique. Bon, maintenant j'entre dans la théologie scientifique de saint Thomas. Mais ça les deux présupposés. C'est nécessaire parce que nous sommes remplis de ces idées-là. Alors il faut essayer de comprendre, on doit reprendre aujourd'hui toute une philosophie à partir de l'expérience, des expériences humaines que j'ai, à partir du jugement d'existence et non pas à partir des définitions. Alors maintenant, regardons ce que saint Thomas a réalisé dans la somme théologique. Saint Thomas veut réaliser une théologie scientifique, c'est-à-dire découvrir le nécessaire. Autrement, il n'y a pas de science. La science consiste à saisir le nécessaire. Le nécessaire dans la parole de Dieu. Les lignes nécessaires. saisir dans cette parole de Dieu les lignes de force, les lignes nécessaires, les lignes de force, le point de vue nécessaire. Donc voyez, la théologie de saint Thomas n'épuise pas la révélation. Saint Thomas veut saisir dans la révélation l'intelligibilité de l'enseignement de Dieu pour nous. Ça, c'est capital. C'est pour ça que la théologie de saint Thomas laisse la place à une théologie mystique. Contrairement à des quantités de demi-suarésiens qui disent la somme théologique de saint Thomas, c'est la théologie. Mais non, la somme théologique de saint Thomas est un aspect de la théologie. Très fondamental, très important, puisque c'est l'aspect scientifique. Mais ce n'est qu'un aspect. Saint Thomas n'a jamais prétendu identifier sa théologie scientifique avec la doctrine sacrée, la théologie. Mais des quantités de thomistes identifient les deux. Bien, je crois que ça, c'est une très grave erreur. Et c'est une erreur qui provient de Suarez. Parce qu'on identifie l'être et l'idée d'être. Or, l'être, ce qui est bien plus riche que l'idée que vous en avez. On ne peut pas identifier ce que nous connaissons de la réalité et la réalité. Ce que Kant avait très bien compris. Et il prend l'exemple tout simplement, Santalère, l'idée de Santalère, ce n'est pas Santalère. C'est pas parce que je pense à Santalère que j'ai Santalère dans ma poche. Peut-être un peu malade pour croire que quand je pense sans talère, je les ai dans ma poche. Quelqu'un qui dit sans il est malade. Il est un peu malade. Il identifie ce qu'il pense et la réalité. Mais non, la réalité est autre chose que ce que je saisis de la réalité. Ça, c'est élémentaire. Et cependant, on a confondu. On est tombé dans ce qu'on appelle l'erreur de l'ontologisme. Et l'ontologisme, c'est justement ça. C'est d'identifier ce que je pense et la réalité. Alors ça va très loin. Les conclusions scientifiques, c'est la réalité. Mais non, les conclusions scientifiques, ce sont des conclusions scientifiques. C'est une partie de la réalité. Mais la réalité est bien plus riche que la conclusion scientifique. Le jour où on confond la conclusion scientifique et la réalité, on se met le doigt dans l'œil, quoi. On est complètement malade. Et l'apologétique scientifique, scientiste, le positivisme, c'est de nous faire croire que la conclusion scientifique, c'est la réalité. Mais non, c'est pas la réalité. Un aspect. Mais il faut être très intelligent pour dire ça, aujourd'hui. Et on se met tout le monde à dos. Parce qu'on veut faire croire que la science aboutit à la réalité telle qu'elle est. Mais non, il y a une abstraction, une terrible abstraction. Et plus les microscopes sont importants, plus l'abstraction est forte. Et au bout d'un certain temps, on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'on saisit. Qu'est-ce qu'on saisit de la réalité? C'est pas ce que je vois en le projetant. Et ça, c'est l'illusion. Bon, nécessaire. Alors, saint Thomas va prendre l'ordre où je saisis ce qu'il y a de plus nécessaire. Saint Thomas commence par montrer les voies d'accès à l'être premier que nous appelons Dieu. Voyez, il faut bien faire ça. Saint Thomas n'a jamais dit démonstration de l'existence de Dieu. Ça, c'est Descartes. C'est l'apologétique. Saint Thomas a dit découverte de l'existence de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu n'est pas philosophique. Il est religieux. C'est comme l'âme. Il faut toujours regarder l'origine où le mot apparaît. Le mot Dieu apparaît dans les traditions religieuses. Et le philosophe doit se poser la question, est-ce que ce mot exprime une réalité ou un mythe? Parce que dans les traditions religieuses, il y a beaucoup de mythes. Mais quand on parle des mains de Dieu qui façonnent le corps de l'homme, est-ce que Dieu a des mains? Non. C'est symbolique. C'est symbolique. Dieu a bien plus qu'une main. Il a la source de la main. Mais Dieu n'a pas de main, puisqu'il n'a pas de corps. Il a une intelligence telle qu'il n'a pas besoin d'avoir de main. Tandis que vous, vous en avez besoin. Votre intelligence ne suffit pas. Je désire que cet œuf soit cuit. Le simple fait que je le désire, il est cuit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Hein, c'est ça la chose qu'il faut saisir. Bon, les cinq voies, saint Thomas commence par les cinq voies, c'est-à-dire que saint Thomas montre comment l'intelligence humaine est capable par elle-même de montrer la nécessité de l'existence d'un être premier. Voilà, la nécessité. Démonstration très pauvre, très pauvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut mieux dire dévoilement que démonstration. Parce que pour nous, la démonstration, c'est tout de suite la démonstration scientifique et la démonstration mathématique. Alors c'est faux. C'est une démonstration a posteriori, analogique, extrêmement pauvre. Ça ne satisfait jamais totalement l'intelligence. Mais l'intelligence, quand elle est bien éveillée, dit oui, c'est nécessaire de poser l'existence d'un être premier. Il est nécessaire, la nécessité, qui porte sur l'exister. Et non pas sur ce qu'est Dieu. L'exister de Dieu. Et non pas ce qu'est Dieu. Ce qu'est Dieu, je l'ignore. Je me dépasse complètement. Vous voyez bien, je n'ai qu'un jugement d'existence sur Dieu. C'est déjà beaucoup. Ça suffit pour fonder une théologie scientifique. Si l'intelligence humaine était incapable d'atteindre l'existence de Dieu d'une façon nécessaire, il ne pourrait pas y avoir de théologie scientifique. C'est pour ça que saint Thomas commence tout de suite. Dans la prima pars, question 2, saint Thomas commence tout de suite par ce point de vue des voies d'accès. Autrement dit, l'intelligence étant capable par elle-même d'atteindre l'existence d'un être premier que nous appelons Dieu, l'intelligence est un instrument dont le croyant peut se servir pour édifier. C'est un aspect critique, ça, sur la valeur, la qualité de l'intelligence humaine. C'est très important, c'est pour ça que cette question de, elle a fait couler énormément d'encre, et elle continuera. Un aspect critique, ce n'est pas la théologie, mais c'est dans la théologie un aspect critique. On éprouve l'instrument. C'est ce que fait tout bon artiste. Avant de commencer, il regarde si ses instruments sont bons. Un dentiste, hein, il fait ça, il éprouve ses instruments. Et en tant que possible, il éprouve avant que sur le patient. Un mauvais dentiste, il les éprouve sur le patient. Alors, il éprouve, il commence et puis ça craque. Hein. Là, je vous laisse au milieu. Un mauvais artiste. Et saint Thomas sait que pour édifier une théologie scientifique, saisir les liens de nécessité qui sont présents dans la révélation et l'enseignement de Dieu, les liens de nécessité, il faut que l'intelligence humaine soit capable d'aller jusqu'à l'existence de Dieu. Pourquoi ? Parce que si mon intelligence est incapable je ne pourrais pas distinguer dans l'écriture les analogies métaphoriques et les analogies propres. Je m'explique. Quand je parle du bras de Dieu, de la main de Dieu, est-ce une analogie propre ou une analogie métaphorique? Est-ce un langage symbolique ou est-ce un langage scientifique? Il faut quand même distinguer les deux. Un langage symbolique, il est poétique. Un langage scientifique n'est pas poétique. Saint Thomas ne veut pas faire un grand poème en l'honneur de Dieu. Il aurait été capable de le faire. Pour l'Eucharistie, il a fait des cantiques liturgiques symboliques. Il était poète, à sa manière. Et en même temps, il a fait le traité scientifique de l'Eucharistie. Ça, c'est assez extraordinaire. Le même homme a fait les deux. Ce qui prouve qu'il distinguait très bien les deux. Donc, pour distinguer dans l'écriture, dans la parole de Dieu, ce qui est symbolique et ce qui est propre, il faut que l'intelligence soit capable d'atteindre l'existence de Dieu. Autrement, elle ne pourrait pas. C'est pour ça que celui qui n'a fait aucune philosophie lit l'écriture en disant, mais il y a des contradictions. On dit que Dieu est dans un lieu et on dit que Dieu est partout. Comment ça se fait? On dit que Dieu se lève, il s'assied, il est sur le trône, assis sur le trône. Quelqu'un est assis. Alors c'est comment ça se fait? La moitié du temps assis, la moitié du temps debout. Quand il est fatigué d'être assis, il se lève. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La cession de Dieu, vous voyez? Langage métaphorique. Pour nous, nous avons besoin d'un langage métaphorique. Nous avons besoin d'un langage symbolique. Parce que c'est le premier langage de l'enfant et le dernier langage du poète et du saint. Le langage symbolique est ce qui est ultime. Ce n'est pas le langage scientifique qui est ultime. Jamais. Le langage scientifique est ultime pour le savant et pas pour l'homme. Alors si j'identifie le savant et l'homme, c'est terrible. En théologie, ce n'est pas le langage scientifique qui est ultime. C'est le langage de la théologie mystique. En théologie mystique, je récupère tout le langage symbolique que le théologien de théologie scientifique avait laissé tomber. On en prendra un exemple magistral, parce que c'est très important de bien saisir ça. Donc, l'importance de cette question, c'est de montrer que l'intelligence est capable de faire ça, d'aller jusqu'à l'existence de Dieu, donc capable de discerner les analogies propres qui me permettent d'avoir un langage scientifique et les analogies métaphoriques qui restent symboliques, toujours liées au sensible. Le symbole est toujours lié au sensible. Tandis que le langage scientifique peut dépasser le sensible. Il est universel. Vous voyez, là, il faut bien distinguer les deux. Immédiatement après ça, saint Thomas entre en théologie scientifique. Et la première question qui se pose, parce que pour moi, qu'est-ce qu'il y a de plus intelligible dans la révélation? Lorsque Dieu se révèle lui-même. Et parce que les voies d'accès me donnent les liens de nécessité entre mon intelligence humaine et Dieu. J'ai les voies d'accès, le lien de nécessité. Je peux donc immédiatement me poser la question 3. d'exister de Dieu. Je sais très bien que je ne dois pas savoir ce qu'est Dieu, mais je peux réfléchir sur le comment de Dieu. Comment Dieu existe-t-il ? Comment Dieu existe-t-il ? Le comment. Et saint Thomas précise, c'est même le comment. Comment il n'existe pas. Le commodo non sit. La négation est première pour moi. Alors saint Thomas reprend là la grande méthode donnée par Denis. Dieu, nous pouvons le regarder à travers la causalité des voies d'accès. Par la négation, commodo non sit. Et par l'éminence, il y a toujours les trois aspects. Le lien de causalité qui me montre le lien qui existe entre Dieu et moi. La négation, j'affirme que Dieu me dépasse complètement. Et tout ce que je connais de positif, de déterminé dans la réalité, n'est pas Dieu. J'ai jamais vu d'image de Dieu. Bien que je dise que je suis l'image de Dieu. C'est pour ça que la révélation pour le peuple d'Israël, interdisez les images de Dieu. On ne peut pas faire une icône de Dieu. Non, on ne peut pas faire une statue de Dieu. Non. Dieu est l'être premier, au-dessus de toutes les formes, de toutes les images que je peux avoir. Donc la négation est première. Le théologien, c'est d'abord celui qui nie. Commodo non sit, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de bras, Dieu n'a pas de main. Dieu n'a pas de lieu. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu ne bouge pas. Vous voyez, on nie, on nie, on nie, on nie. Mais en même temps qu'on nie, on affirme. Et la première affirmation, c'est Dieu. Absolument omnino, simplex. C'est très extraordinaire. Première conclusion de la théologie scientifique. Dieu est tout à fait simple. La simplicité de Dieu. Et qui est au terme de cette réflexion théologique de nier en Dieu toute composition. L'homme est l'être le plus complexe qui soit. Vous ne pouvez pas imaginer un être plus complexe que l'homme. Oui, vous pouvez imaginer, mais vous n'avez jamais rencontré un être plus complexe que l'homme. Complexité biologique, complexité psychologique, complexité intellectuelle. Vous dites de quelqu'un, oh, ce qu'il est compliqué. Ben oui, mais oui, c'est pas étonnant. Il est homme. Alors est-ce que la femme est plus compliquée que l'homme ? Ça, je vous laisse. La complexité. Mais c'est très beau de voir ça. Dieu est absolument ça. Toutes les compositions sont niées de Dieu. Et au terme, il est absolument ça. Oh, vous n'avez aucune expérience de la simplicité, aucune expérience intellectuelle. Vous avez des nostalgies de simplicité. Les artistes, au terme de leur vie, voudraient faire des statues d'une simplicité absolue. Et la matière est là pour montrer qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose de simple. Les peintres voudraient une simplicité absolue, uniquement le trait. Matisse, son Saint-Dominique, le trait. Et en étant pris par cette nostalgie de la simplicité, ils abandonnent la perfection. Le dilemme constant, une spiritualité de boulot. Alors vous abandonnez le cèdre. La spiritualité de la perfection, Comme c'est difficile la simplicité. Le dilemme constant, vous voyez. Eh bien, ce dilemme, il n'existe pas en Dieu. Dieu est absolument simple et Dieu est parfait. Alors, ce que je veux ici, c'est que vous compreniez que la première conclusion de la théologie scientifique, la théologie scientifique existe du fait même que j'affirme Dieu est absolument simple. Je me suis servi de la négation pour exclure toute composition, toutes les compositions que je vois en moi, et pour dire quelque chose qui dépasse toutes mes expériences. Dieu est absolument simple. Et ça, c'est très beau. Je peux contempler cette simplicité de Dieu. C'est une contemplation. Et j'affirme qu'il est absolument simple. Dieu, s'il est, est simple. Pourquoi ? La simplicité est l'apanage du premier. Seul ce qui est premier est simple. Ce qui est second est toujours compliqué. Un œil sur celui qui est devant moi, un œil sur moi. Je suis et je suis second. Vous savez, quand on doit marcher à la suite les uns des autres, on dit, mais faites attention à celui qui est devant vous, quoi. Mais non, je fais attention uniquement à ma marche. Regardez le gosse, il n'arrive pas à marcher derrière quelqu'un. C'est très amusant de voir ça. Il faut des grandes personnes très sérieuses. Alors, elles vont au train de procession. Et on redevient un gosse quand on est en auto. Quand il y a une espèce de bulle, on essaie par tous les moyens de dépasser. Alors on louche tout le temps à droite ou à gauche pour voir comment on pourra dépasser. Parce que c'est assommant d'être derrière quelqu'un, quoi. Parce qu'on est relatif. On est relatif. Dieu n'est relatif à personne. Il est. Il est. Et cette conclusion est scientifique. Elle est nécessaire. Parce qu'elle montre que l'exister de Dieu, parce que c'est l'exister de l'être premier, c'est un exister qui n'implique aucune potentialité, aucune division possible. Il est. Il est absolument simple. Je trouve ça très très beau, parce que c'est là où vous saisissez ce que c'est que la théologie scientifique. Et vous saisissez tout de suite la différence entre la théologie scientifique et la théologie biblique. Regardez dans l'Écriture. Il n'est jamais affirmé que Dieu est simple. Jésus dit simplement, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Il ne dit pas que Dieu est simple. Extrêmement curieux. Et c'est là l'audace de la théologie scientifique. Ce qui est en Dieu de plus intelligible, c'est la simplicité. C'est ce qu'il y a de plus intelligible, de plus lumineux. La lumière de Dieu. Dieu est lumière parce qu'il est simple. Ne dis pas que Dieu est rouge. Ne dis pas que Dieu est bleu. Il est lumière. Et la lumière est au-dessus de toutes les couleurs. Il est saint. Vous ne parlez pas de l'âme de Dieu. Non. Il est simple. Au-dessus de toute âme. Parce que l'âme implique encore une détermination. Il est simple. Au-delà de tout ce que je peux concevoir. Dieu est au-delà de la logique. La logique ne dit rien de Dieu, parce que Dieu est simple. Et la logique est toujours composée. Alors il y a cette nécessité de l'intelligence qui affirme la simplicité de Dieu. Vous voyez pourquoi une théologie scientifique commence par regarder le mystère de Dieu. Parce que c'est pour moi ce qu'il y a de plus nécessaire du fait que j'existe. Nécessairement Dieu existe parce que je suis un être second et que Dieu seul est l'être premier. Oui, c'est ça, parce que quand on critique saint Thomas de commencer par le traité de Dieu, mais c'est parce qu'il veut faire une théologie scientifique. Acceptez ça, quoi. Un artiste, on a accepte son intention. Acceptez qu'il veut faire une théologie scientifique. Ah, vous n'êtes pas d'accord.